Parmi les tabous de l'Israël antique, il en est deux qui présentent la particularité à la fois d'avoir été édictés par la divinité et de remonter directement ou indirectement aux origines de l'humanité. Il s'agit des tabous associés au sabbat et au sang. Ce sont également là les deux tabous majeurs du judaïsme de l'époque perse. Commençons par le tabou du sang. Ce tabou ne porte pas sur l'utilisation du sang en général. Comme le montre le rituel pascal, où il est appliqué au montant et au linteau des portes, le sang peut être manipulé, même par des Israélites ordinaires, sans que cela ait quelques conséquences négatives que ce soit, bien au contraire, puisque ce sang appliqué sur les portes a une fonction apotropaïque, à savoir détourner la mort qui, autrement, frapperait les habitants de la maison. Le tabou porte très précisément et exclusivement sur la consommation du sang. Et c'est d'ailleurs dans le cadre d'instructions relatives à la consommation de la viande qu'il est énoncé. Déjà, le Deutéronome interdisait strictement de manger le sang. Manger, c'est le verbe qui est utilisé. Et prescrivait expressément de le répandre à terre comme de l'eau, une précision qui ôtait par là même toute fonction rituelle à ce geste. Le Deutéronome ne fait pas état d'une sanction spécifique qui frapperait le contrevenant. C'est surtout dans la couche sacerdotale, une des couches littéraires du Pentateuque composé à l'époque perse, que ce tabou prend toute son importance. Il est énoncé une première fois en Lévitique 3:17, repris en Lévitique 7:26-27, développé longuement en Lévitique 17, 10, 12, 14, les versets 10 à 12 précisant que ce tabou s'impose non seulement aux Israélites, mais également aux immigrés. Sauf dans le cas d'un sacrifice, et plus précisément à propos d'un gibier, il est spécifié que le sang doit être versé à terre, ceci tout comme dans le Deutéronome, et qu'il doit être recouvert de terre. Le code sacerdotal précise que toute transgression de ce tabou serait sanctionnée par la divinité, qui tournerait sa face contre le coupable et le retrancherait du milieu d'Israël. Pourquoi ce tabou ? Plusieurs raisons sont indiquées par nos auteurs. D'abord, parce que le sang, comme d'ailleurs aussi la graisse, constitue la part du sacrifice strictement réservé à la divinité. Mais aussi parce que la divinité a assigné au sang sacrificiel, et plus précisément au sang d'une des formes du sacrifice qu'on appelle habituellement le sacrifice pour le péché, la divinité a assigné à ce sang la fonction de servir à l'expiation, Lévitique 17, 11 à 12, autrement dit, à réintégrer dans la communauté cultuelle ceux qui s'en seraient trouvés momentanément exclus du fait de leur impureté ou de la transgression inconsciente ou involontaire d'un interdit divin. Surtout, nous est-il dit, si le sang est interdit à la consommation, c'est que le sang contient l'âme de la victime, son principe vital, motif que l'on trouve déjà énoncé dans le Deutéronome. Soit dit en passant, et contrairement à notre hymne national, la Bible hébraïque ne qualifie jamais le sang d'impur. Ce qui fait l'intérêt du code sacerdotal est qu'il met ce tabou en relation avec des instructions données par la divinité immédiatement après le déluge à l'ensemble des humains. Dans un discours qu'il adresse à Noé et à ses fils, Dieu met à la disposition des humains tous les êtres vivants pour que leur chair leur serve de nourriture, mais interdit expressément d'en consommer le sang. Le sang, y est-il précisé, n'est pas simplement une composante à côté de la chair, il représente la vie, or celle-ci n'appartient qu'à Dieu. L'être humain ne saurait donc en disposer, la manger et donc la détruire. Cette autorisation de tuer tous les animaux pour les manger est en rupture radicale avec les instructions relatives à la nourriture que Dieu avait données aux humains au moment de leur création et où il leur avait attribué une nourriture exclusivement végétale. Ce changement est assez surprenant. Il s'explique sans doute, comme le donnent à penser les analyses de René Girard, par la nécessité d'offrir aux humains un dérivatif à la violence, laquelle, d'après Genèse 6,13, avait été à l'origine même du déluge. Mais les valeurs originelles portées par la nourriture exclusivement végétale, ces valeurs originelles, à savoir le respect de la vie et la non-violence, ne sont pas rendues caduques pour autant. Elles seront désormais rappelées par l'interdiction de manger le sang, énoncée en Genèse 9,4, le sang qui représente la vie sur laquelle l'être humain n'a aucun droit. L'abattage d'un animal en vue de manger sa chair n'est donc jamais un acte banal. Il reste une atteinte à la vie, mais cette atteinte à la vie d'un animal est une concession accordée par Dieu aux humains pour empêcher que la violence inhérente à la nature humaine ne conduise à l'autodestruction de la société. Le code sacerdotal a fait du tabou du sang une règle universelle. Nous savons bien que tel n'est pas le cas, même parmi les voisins d'Israël. Si les auteurs du code sacerdotal, qui ne sont pas, faut-il le rappeler, des historiens des religions, mais des théologiens, en ont fait une règle universelle, c'est afin de promouvoir ce qu'ils considéraient comme devant avoir valeur universelle, à savoir le respect de la vie et de la non-violence. Ce même souci explique aussi, à mon avis, la position particulière d'Israël, qui consiste à exclure de son alimentation la majeure partie des animaux et à se restreindre uniquement à certaines catégories. Par ces dispositions, Israël se situe entre l'utopie originelle où aucun animal n'était destiné à être tué pour être consommé et la situation post-diluvienne où tous les animaux pouvaient servir de nourriture aux humains. Par cette restriction, Israël devient ainsi le porteur, le témoin de l'utopie originelle. À mon sens, c'est là toute la signification des dispositions concernant les animaux dits purs, autrement dit autorisés à la consommation, et les animaux dits impurs, autrement dit, interdit à la consommation. Pour moi, ces listes qu'ils ont données, notamment en Lévitique 11, doivent être comprises comme une solution transitoire en attendant la venue du royaume, bien sûr, mais une solution intermédiaire entre un rien et un tout, qui fait que Israël dispose des moyens de réguler sa violence en tuant des animaux, mais qui en même temps permet à Israël d'être le témoin de cette utopie originelle en se restreignant à quelques espèces seulement. Le tabou majeur du judaïsme de l'époque perse est toutefois celui qui a trait au sabbat. Les multiples injonctions faites par le code sacerdotal d'observer le sabbat et par voie de conséquence de s'abstenir de toute activité révèle l'importance de ce tabou énoncée pour la première fois dans le cas, enfin pour la première fois lorsqu'on prend les textes dans l'ordre des livres bibliques, mais en doute aussi pour la première fois du point de vue de l'histoire, énoncée pour la première fois dans le cadre solennel du Décalogue d'Exode 20, lequel étend expressément ce tabou aux bêtes de somme et de trait. À côté de la formulation générale de l'interdit, à savoir ne faire aucune œuvre ce jour-là, sont parfois mentionnées quelles sont plus précisément les activités qui sont interdites. La couche sacerdotale met tout particulièrement l'accent sur l'interdiction d'allumer du feu ce jour-là. Exode 35, verset 3. D'allumer du feu ce jour-là, mais aussi interdit les activités en amont, à savoir ramasser du bois, et en aval, à savoir faire cuire de la nourriture. Ce lien avec l'interdiction de faire du feu ou de préparer d'une manière ou d'une autre le feu est assez étrange. Elle s'explique par le fait que pour nos auteurs, le seul feu qui puisse brûler ce jour-là est le feu perpétuel qui s'élève sur l'autel du parvis où se consume l'holocauste quotidien que Yahvé lui-même est censé avoir allumé et qui est le signe de la présence. Aucun autre feu ne doit entrer en concurrence avec celui-là. Allumer un feu reviendrait à empiéter sur le domaine réservé de Yahvé. L'interdiction du sabbat, si j'interprète correctement ces textes, est donc d'abord liée au fait de faire du feu et plus précisément, enfin de faire du feu et donc de ne pas concurrencer ce feu perpétuel qui brûle sur l'autel de l'Holocauste. D'autres textes bibliques plus tardifs citent parmi les activités interdites les moissons, les vendanges et autres récoltes, le transport des marchandises et plus généralement le commerce. La gravité de ce tabou est parfaitement illustrée par la sanction qui frapperait celui qui viendrait à le transgresser. Le coupable serait retranché de son peuple, le même verset précisant, comme pour lever toute ambiguïté, que le coupable mourrait. On ne peut manquer d'être frappé par la disproportion entre le délit, lequel consiste, je le rappelle, à s'abstenir de toute activité et donc à ne rien faire, et l'extrême sévérité de la sanction qui menace le contrevenant, qui n'est rien moins que la peine de mort. Subir le châtiment suprême pour n'avoir rien fait est de prime abord pour le moins paradoxal. En réalité, si le coupable encourt la peine de mort, c'est principalement pour deux raisons. La première énoncée en Exode 20:11 dans le cas du Décalogue est que le sabbat commémore le septième jour de la création de l'univers. Celui qui marque la conclusion de cette création, jour où, nous est-il dit, Elohim s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait faite. Exode 20:11 cite d'ailleurs expressément le passage correspondant au septième jour de Genèse 2:3. Elohim bénit le septième jour et le sanctifia. Il le cite quasiment mot pour mot, tout en remplaçant significativement la désignation septième jour par celle de sabbat et le nom divin Elohim par celui de Yahvé, non spécifiquement donné au Dieu d'Israël. La caractéristique distinctive de ce jour, celle qui est à l'origine du tabou, est que le jour du sabbat est un jour saint, autrement dit, mis à part, soustrait au domaine profane, réservé tout entier à la divinité, raison pour laquelle Israël doit sanctifier ce jour, autrement dit, s'abstenir de toute activité profane. Parce que le jour du sabbat appartient au domaine réservé de Yahvé, l'utiliser à son profit reviendrait à empiéter sur le domaine sacré, profanation nécessairement punie de mort. Le tabou du sabbat a ceci en tout cas sur ce point, d'analogue avec le tabou du sang, il porte sur un privilège strictement réservé à la divinité. Mais il y a plus. Car à cette première raison s'en ajoute une autre, peut-être moins connue. Le sabbat ne fait pas seulement référence à la création de l'univers, il est aussi, et je dirais surtout, le signe de l'alliance que Yahvé a conclue avec Israël. Cette explication est donnée dans un passage important du livre de l'Exode, en Exode 31, 13 à 17, 12 à 17, un passage que ses auteurs ont rédigé avec un soin tout particulier, lui donnant une structure concentrique avec au centre l'énoncé de l'interdit, qu'ils ont encadré de trois séries d'affirmations qui se correspondent deux par deux et qui respectivement énoncent la sanction qui frappe le contrevenant, la peine de mort, enjoignent d'observer le sabbat et précisent que le sabbat est le signe de l'alliance entre Yahvé et Israël. Une structure en sept points, sept évidemment qui rappelle le sabbat, sept qui rappelle peut-être aussi le chandelier à sept branches qui se trouve dans le sein et qui représente la présence de Yahvé au milieu de son peuple. Cette alliance du sabbat fait suite à deux autres alliances. Celle qu'Élohim avait conclue avec l'ensemble des êtres vivants après le déluge, alliance au terme de laquelle il s'engageait de manière unilatérale et sans contrepartie à ne plus jamais détruire la terre par un déluge, alliance dont le signe est l'arc-en-ciel. Et celle avec Abraham, conclue par El Shaddai, au terme de laquelle il s'engageait à multiplier sa descendance et à donner à ses descendants un territoire en propre, alliance dont le signe est la circoncision. Cette troisième alliance, cette dernière alliance, est conclue par Yahvé, non spécifiquement révélée à Israël, et elle a pour signe le sabbat. Dans ces conditions, ne pas respecter le repos sabbatique apparaît comme un acte de rébellion contre Yahvé, comme une rupture de l'alliance. Allumer un feu, qui par ailleurs est la signe et le signe de la présence de Yahvé, apparaît comme une bravade et un crime de lèse-majesté qui ne peuvent être sanctionnés que par la mise à mort du coupable. Comme le sang, le tabou du sang est rattaché aux origines même, le tabou du sabbat est rattaché aux origines même de l'humanité. Mais tandis que le tabou du sang est considéré comme ayant valeur universelle, celui du sabbat est présenté comme étant spécifique à Israël, alors même qu'il rappelle une réalité universelle, à savoir la création. Cette restriction du tabou au seul Israël s'explique par la vocation particulière assignée par Yahvé à son peuple, à savoir d'être le témoin du Dieu créateur et de proclamer sa suzeraineté sur l'univers tout entier. Ces deux tabous remplissent principalement deux fonctions. La fonction première, affirmer une conviction. Le tabou de la consommation du sang manifeste le caractère sacré de la vie, de toute vie, humaine mais aussi animale, laquelle relève de la divinité, sur laquelle seule la divinité a pouvoir de vie et de mort. Inculquant le respect de la vie, dont il fait la valeur fondamentale, le tabou du sang fixe ainsi des limites à la violence destructrice. En cela, ce tabou rejoint ce que dit Mary Douglas de la fonction du tabou en général, à savoir, je cite, « qu'il est le souci intelligible de protéger la société contre les comportements qui la détruiraient ». De son côté, le tabou du sabbat, en contraignant à renoncer chaque semaine à l'usage profane de la dernière journée, exprime la reconnaissance publique que le temps, autrement dit l'histoire, appartient à la divinité qui en est le maître et qui la met à la disposition des humains. Ce tabou du sabbat a encore une autre fonction, particulièrement importante, celle d'être un marqueur identitaire, qui non seulement unit entre eux l'ensemble des Juifs, mais qui aussi, par ce comportement singulier de s'abstenir à intervalles réguliers de tout travail, les singularise. Marqueur, qui prend toute son importance en contexte de diaspora face à la menace d'assimilation. Contrairement à ce à quoi l'on aurait pu s'attendre, ce marqueur n'est pas mis en relation avec le mythe fondateur d'Israël, tel qu'il est énoncé principalement dans le livre de l'Exode. Le génie, et j'emploie intentionnellement ce mot, le génie des auteurs de la couche sacerdotale a été de leur attacher exclusivement à la création de l'univers, ce qui évite au judaïsme de l'époque perse de sombrer dans un particularisme enfermant, mais tout au contraire l'ouvre à l'universel. À travers cette confession muette du Dieu créateur de l'univers, celui-là aussi qui, selon Genèse 1, a fait de tout être humain, à quelque peuple qu'il appartienne, quelle que soit sa religion, son image, autrement dit son représentant, mandaté par la divinité pour gérer la terre en son nom. Ces deux tabous ont encore une autre fonction. Ils servent à mettre les individus sous le contrôle de la communauté. Le tabou du sabbat permet à tous de vérifier que chacun s'abstient non seulement de toute activité exposée au public, mais aussi de toute activité domestique. Le tabou du sang, qui échappe davantage au contrôle public, est destiné pour sa part à lutter contre toute forme de pratique idolâtre au cours desquelles les fidèles boiraient le sang d'une victime. Cette fonction de vigilance qui met la société sous le contrôle de forces transcendantes, dont on attend qu'elles garantissent le respect de la règle, et la fonction principale du tabou, est née, bien entendu, nullement spécifique au judaïsme de l'époque perse. Le tabou reste toujours le meilleur moyen d'imposer l'observation d'une règle que le seul contrôle policier est incapable de faire respecter. Je vous remercie.